Chapitre 226. Ô toi, serviteur de Dieu, j'ai bien reçu ta lettre. Elle m'a procuré de la joie. Tu as exprimé ton désir ardent de me voir assister au congrès de la paix. Or, je n'assiste pas à de telles conférences politiques, car l'établissement de la paix est irréalisable si ce n'est par le pouvoir de la parole de Dieu. Lorsque sera convoquée une conférence représentative de toutes les nations qui délibérera sous l'influence de la parole divine, alors la paix universelle sera instaurée. Autrement, il est impossible d'y parvenir. Actuellement, il est certain qu'une paix temporaire est établie, mais elle n'est pas durable. Tous les gouvernements et toutes les nations sont fatigués de la guerre. Ils en ont assez des difficultés de transport, des dépenses énormes, des pertes en vie humaine, de l'affliction des femmes, du nombre élevé d'orphelins. Ils se voient donc forcés de s'orienter vers la paix, mais cette paix n'est pas permanente, elle n'est que provisoire. Nous espérons que le pouvoir de la parole de Dieu établira une paix appelée à demeurer à jamais, une paix effective et sûre. Chapitre 227. Ô vous, hommes estimés, pionniers parmi les amis sincères de l'humanité. Nota, ceci est la première partie de la réponse de Abdu'l-Bahá à une lettre reçue du comité exécutif de l'Organisation centrale pour une paix durable. La tablette, décrite par Chori Effendi dans « Dieu passe près de nous », est d'une très grande importance et datée du 17 décembre 1919. Elle a été remise au comité de la Haye par une délégation spéciale. Les lettres que vous m'avez envoyées pendant la guerre ne me sont pas parvenues, mais une autre, datée du 11 février 1916, vient de m'être remise et je m'empresse d'y répondre. Vos intentions méritent mille et mille louanges, car vous servez le monde de l'humanité et contribuez ainsi au bonheur et au bien-être de tous les hommes. Cette récente guerre a prouvé au monde et à ses habitants que la guerre est destruction, alors que la paix universelle est construction. La guerre est mort, la paix est vie. La guerre est rapacité et soif de sang. La paix est bienfaisance et mansuétude. La guerre est servitude du monde de la nature. La paix est l'un des fondements de la religion divine. La guerre est ténèbres, encore et toujours. La paix est lumière céleste. La guerre détruit l'édifice humain. La paix est la vie éternelle du monde de l'humanité. La guerre est comme un loup qui dévore. La paix est pareille aux anges du ciel. La guerre est lutte pour l'existence. La paix est assistance mutuelle et coopération entre les peuples de la terre. C'est aussi la source du bon plaisir du vrai Dieu dans le royaume céleste. Il n'est pas une seule âme dont la conscience ne témoigne qu'en ce jour, il n'est pas d'affaire plus importante que la paix universelle. Tout être juste en porte témoignage et vénère votre assemblée estimée, car elle a pour but de transformer ces ténèbres en lumière, cette soif de sang en bonté, ce tourment en bonheur, cette épreuve en confort, cette inimitié et cette haine en solidarité et en amour. L'effort fourni par ces âmes estimables est donc digne de louange et d'approbation. Mais les âmes avisées, qui connaissent les liens essentiels des réalités des choses, considèrent qu'une seule et même question ne peut à elle seule influencer comme elle le devrait la réalité humaine. Car tant que ne seront pas unies les consciences des hommes, aucune affaire importante ne pourra être menée à bien. À l'heure actuelle, la paix universelle est un problème de grande importance, mais l'unité de conscience est essentielle pour que les fondements de la paix puissent devenir stables, son institution ferme et sa structure solide. C'est pourquoi Baha'u'llah, il y a 50 ans, exposa ce problème de la paix universelle, alors qu'il était confiné dans la forteresse Dhaka, emprisonné et victime de multiples sévices. Il écrivit, au sujet de cette importante question de la paix universelle, à tous les grands souverains du monde et l'exposa à ses amis de l'Orient. En Orient, l'horizon était on ne peut plus ténébreux. les nations faisaient preuve l'une envers l'autre de la haine et de l'hostilité les plus implacables. Les religions rivalisaient entre elles dans leur attitude sanguinaire. Tout n'était que ténèbres. À cette époque apparut Baha'u'llah, tel le soleil à l'horizon de l'Orient, illuminant la Perse des lumières de ses enseignements. Parmi ceux-ci figurait la déclaration de paix universelle. Les hommes, de pays, de religions et de sectes différents, qui le suivirent, étaient si nombreux qu'ils formaient, lorsqu'ils se réunissaient, des rassemblements considérables, où les diverses nations et religions de l'Orient étaient représentées. Chaque âme qui participait à ces rassemblements ne voyait qu'une seule nation, un seul enseignement, une seule voie, un seul ordre, car les enseignements de Baha'u'llah n'étaient pas limités à l'établissement de la paix universelle. Ils englobaient maints enseignements qui venaient compléter et soutenir celui de la paix universelle. Il y avait, au nombre de ces enseignements, la recherche indépendante de la réalité, pour que le monde de l'humanité soit sauvé des ténèbres de l'imitation du passé et qu'il parvienne à la vérité, qu'il déchire et rejette cet habit usé et rétréci d'il y a 1000 ans et qu'il revête la robe tissée dans la pureté et la sainteté extrême avec la trame de la réalité. Comme la réalité est une et ne peut donc admettre la multiplicité, de même les différentes opinions doivent finir par fusionner. Au nombre des enseignements de Baha'u'llah figure aussi l'unité de l'humanité, le fait que tous les êtres humains sont les brebis de Dieu et qu'il est le bon berger. Ce berger est bon envers toutes les brebis, car il les a toutes créées, formées, soignées et protégées. Il ne fait aucun doute que le berger est bon envers toutes les brebis, et s'il se trouve parmi elles des ignorantes, elles doivent être éduquées. S'il y a des enfants, ils doivent être formés jusqu'à leur maturité. S'il y a des malades, ils doivent être guéris. La haine et l'hostilité doivent être absentes, car ces ignorants et ces malades devraient être traités comme par un médecin bienveillant. Au nombre des enseignements de Baha'u'llah figure encore le principe selon lequel la religion doit être source de solidarité et d'amour. Si elle devient une cause d'aliénation, alors elle n'est pas nécessaire, car la religion est comme un remède. S'il aggrave la maladie, alors il devient inutile. Dans ses enseignements, Baha'u'llah pose aussi le principe que la religion doit être conforme à la science et à la raison pour qu'elle puisse exercer une influence sur le cœur des hommes. Elle doit reposer sur des bases solides et ne pas s'en tenir à des imitations. Parmi ses enseignements, il y a encore l'idée que les préjugés d'ordre religieux, racial, politique, économique et patriotique détruisent l'édifice de l'humanité. Tant que prévaudront ces préjugés, le monde de l'humanité ne connaîtra pas de paix. Une période de 6000 ans, celle de l'histoire de la Terre, nous informe du monde de l'humanité. Au cours de ces 6000 ans, ce monde n'a pas cessé d'être la proie des guerres, des conflits, des meurtres et de la soif de sang. À chaque période, la guerre a régné dans l'un ou l'autre pays, et cette guerre était due à des préjugés religieux ou raciaux, politique ou patriotique. Il a donc été établi et prouvé que tous ces préjugés contribuent à détruire l'édifice humain. Aussi longtemps que persisteront ces préjugés, la lutte pour l'existence continuera à prévaloir. La soif du sang et la rapacité poursuivront leurs méfaits. Par conséquent, comme dans le passé, le monde de l'humanité ne peut être sauvé des ténèbres de la nature et atteindre l'illumination si ce n'est par l'abandon des préjugés et l'acquisition des principes moraux du royaume. Si ces préjugés et cette hostilité sont dus à la religion, dites-vous que celle-ci devrait être cause de fraternité, sinon elle demeure stérile. Si en outre ce préjugé est celui de la nationalité, dites-vous que l'humanité tout entière n'est qu'une seule nation. Tous les hommes descendent de l'arbre d'Adam, et Adam est la racine de l'arbre. Cet arbre est unique, et toutes les nations en sont comme les branches, et les membres de l'humanité en sont les feuilles, les fleurs et les fruits. Ainsi, l'établissement des diverses nations et les combats sanglants qui en résultent, c'est-à-dire la destruction de l'édifice humain, sont dues à l'ignorance humaine et aux motivations égoïstes. Quant aux préjugés de nature patriotique, il est également dû à l'ignorance absolue, car la surface de la Terre n'est qu'un seul et même pays natal. Chacun peut vivre en n'importe quel lieu du globe. Par conséquent, le monde entier est le pays natal de l'homme. Les frontières et les issues ont été conçues par l'homme. Dans la création du monde, de telles frontières et de telles issues ne furent pas instituées. L'Europe est un seul continent. L'Asie est un seul continent, de même que l'Afrique et l'Australie. Mais certains dirigeants, répondant à des motivations personnelles et protégeant des intérêts égoïstes, ont divisé chacun de ces continents et en ont considéré une partie comme leur propre pays. Dieu n'a établi aucune frontière entre la France et l'Allemagne. En vérité, dans les premiers siècles, des êtres mus par l'égoïsme ont, pour promouvoir leurs propres intérêts, fixé des frontières et des issues, et de jour en jour, y ont attaché une importance croissante, ce qui a abouti, dans les siècles suivants, à une hostilité, à des carnages et à une rapacité intense. De la même manière, cet état de choses se poursuivra indéfiniment, et si cette conception du patriotisme demeure confinée à un certain milieu, elle sera la cause primordiale de la destruction du monde. Aucune personne éprise de sagesse et de justice ne saurait reconnaître ces divisions imaginaires. Chaque région limitée que nous appelons notre pays natal, nous la considérons comme notre mère patrie, alors que le globe terrestre est la patrie de tous, et non pas une quelconque zone restreinte. En résumé, nous vivons sur cette terre pendant quelques jours, et ensuite nous y sommes inhumés. Elle devient alors notre tombe éternelle. Cela vaut-il la peine que nous nous appliquions à verser le sang et à nous entre-déchirer pour cette tombe éternelle? Certainement pas. Une telle conduite déplaît à Dieu, et aucun homme sensé ne l'approuverait. Réfléchissez. Les animaux paisibles ne s'engagent pas dans des conflits patriotiques. Ils vivent dans une parfaite cohésion les uns avec les autres et coexistent dans l'harmonie. Si, par exemple, une colombe venant de l'Orient, une autre de l'Occident, une autre encore venant du Nord et une quatrième du Sud, arrivent en même temps au même endroit. Elles s'associent aussitôt dans l'harmonie. Ainsi en est-il des animaux et des oiseaux pacifiques. Les animaux féroces, au contraire, dès qu'ils se rencontrent, s'attaquent et se combattent les uns les autres, s'entre-déchirant, et il leur est impossible de coexister paisiblement en un même lieu. Ils sont tous des combattants insociables et cruels, sauvages et agressifs. En ce qui concerne le préjugé d'ordre économique, il est manifeste que chaque fois que les liens entre les nations se renforcent, que les échanges commerciaux s'intensifient et qu'un principe économique est établi dans l'une de ces nations, il finira par toucher les autres pays et les avantages qui en résulteront seront universels. Alors pourquoi ce préjugé ? Quant aux préjugés d'ordre politique, c'est la politique de Dieu qui doit être suivie. Et il est incontestable que la politique de Dieu est supérieure à la politique des hommes. Nous devons suivre la politique divine, et ceci s'applique également à tous les hommes. Dieu traite également tous les individus. Il n'établit aucune distinction, et ceci est le fondement des religions divines. Au nombre des enseignements de Baha'u'llah, on trouve encore la création d'une langue unique qui puisse se répandre universellement parmi les hommes. Cet enseignement a été révélé par la plume de Baha'u'llah afin que la langue universelle puisse éliminer les malentendus du monde de l'humanité. Au nombre des enseignements de Baha'u'llah figure aussi l'égalité entre hommes et femmes. Le monde de l'humanité possède deux ailes. L'une est constituée par les hommes, l'autre par les femmes. Tant que les deux ailes ne sont pas également développées, l'oiseau ne peut voler. Si une aile demeure faible, le vol est impossible. Tant que le monde des femmes ne deviendra pas égal au monde des hommes sur le plan de l'acquisition des vertus et des perfections, le succès et la prospérité ne pourront être réalisés comme ils devraient l'être. Au nombre des enseignements de Baha'u'llah, on trouve le partage volontaire de ses biens avec d'autres hommes. Ce partage volontaire est supérieur à l'égalité, et il consiste en ceci que l'homme ne doit pas se préférer à autrui, mais plutôt sacrifier aux autres sa vie et ses possessions. Ceci ne doit toutefois pas être introduit par voie coercitive, comme une loi que les hommes seraient contraints de respecter. Non, l'homme doit, spontanément et de son plein gré, sacrifier à autrui sa propriété et sa vie, et contribuer volontairement à aider les indigents, comme c'est le cas en Perse pour les Bahaïs. Baha'u'llah enseigne encore la liberté de l'homme, l'idée que, par le pouvoir idéal, il devrait être libre et émancipé de la captivité du monde de la nature. Car tant que l'homme est prisonnier de la nature, il est un animal féroce, car la lutte pour l'existence est une des exigences du monde de la nature. Or, ce problème du combat pour l'existence est la source de toutes les calamités et constitue la suprême affliction. Au nombre des enseignements de Baha'u'llah, il est montré que la religion est un puissant rempart. Si l'édifice de la religion s'ébranle et menace de tomber en ruine, la confusion et le chaos s'ensuivront, et l'ordre des choses sera totalement bouleversé. Car dans le monde de l'humanité, il existe deux sauvegardes qui protègent l'homme des méfaits. L'une est la loi qui punit le criminel, mais la loi ne prévient que les crimes patents et non les crimes cachés, tandis que la sauvegarde idéale, à savoir la religion de Dieu, prévient à la fois les crimes patents et les crimes cachés. Elle forme les hommes, éduque leur caractère, les contraint à l'acquisition de vertus et constitue le pouvoir total qui garantit la félicité du monde de l'humanité. Toutefois, par religion s'entend ce qui est confirmé par la recherche, et non ce qui est fondé sur l'imitation pure et simple du passé, les fondements de la religion divine et non les imitations humaines. Au nombre des enseignements de Baha'u'llah, nous trouvons l'idée selon laquelle, bien que la civilisation matérielle soit l'un des moyens concourant au progrès du monde humain, tant qu'elle ne sera pas associée à la civilisation divine, le résultat souhaité, à savoir le bonheur de l'humanité, ne sera pas atteint. Réfléchissez bien. Ces vaisseaux qui réduisent en ruine une cité dans l'espace d'une heure sont le fruit de la civilisation matérielle. De même, les canons Krupp, les fusils Mauser, la dynamite, les sous-marins, les torpilleurs, les avions de combat et les bombardiers, toutes ces armes de guerre sont les fruits pernicieux de la civilisation matérielle. Si celle-ci avait été associée à la civilisation divine, ces armes terrifiantes n'auraient jamais été inventées. Bien au contraire, l'énergie humaine aurait été entièrement consacrée à des inventions utiles et se serait concentrée sur des découvertes dignes de louange. La civilisation matérielle est comme le verre d'une lampe. La civilisation divine est l'ampoule elle-même. Sans la lumière, le verre reste obscur. La civilisation matérielle est comme le corps. Aussi gracieux, élégant et beau qu'il puisse être, il est inanimé. La civilisation divine est comme l'esprit. Le corps reçoit la vie de l'esprit, sans lequel il devient un cadavre. Ainsi, il a été prouvé que le monde de l'humanité a besoin des souffles de l'Esprit Saint. Sans l'Esprit, le monde de l'humanité est privé de vie. Et sans cette lumière, le monde de l'humanité est plongé dans une obscurité totale, car le monde de la nature est un monde animal. Tant que l'homme ne renaît pas du monde de la nature, c'est-à-dire tant qu'il ne se détache pas de ce monde, il est essentiellement un animal. Et ce sont les enseignements de Dieu qui transforment en une âme humaine cet animal. Et au nombre des enseignements de Baha'u'llah figure la promotion de l'éducation. Chaque enfant doit être instruit dans les sciences autant qu'il est nécessaire. Si les parents sont en mesure de pourvoir aux frais de son éducation, c'est parfait. Autrement, la communauté doit leur en procurer les moyens. Au nombre des enseignements de Baha'u'llah, on trouve encore les notions de justice et de droit. Tant que ceux-ci ne seront pas réalisés sur le plan de l'existence, toutes choses en ce monde seront en désordre et demeureront imparfaites. Le monde humain est un monde d'oppression et de cruauté, un royaume d'agression et d'erreur. Finalement, de tels enseignements sont nombreux. Ces divers principes, qui constituent le plus grand fondement du bonheur de l'humanité, et procède de la munificence du miséricordieux, doivent être assimilés au problème de la paix universelle et lui être associés, afin que les résultats souhaités puissent être obtenus. Sinon, l'instauration de la paix universelle en elle-même, dans le monde de l'humanité, demeure problématique. Les enseignements de Baha'u'llah, lorsqu'ils sont associés à la paix universelle, sont comme une table couverte de toutes sortes d'aliments frais et succulents. Tout être peut trouver à cette table de munificence infinie ce qu'il désire. Si l'on réduit le problème à la seule paix universelle, les résultats remarquables escomptés et désirés ne seront pas obtenus. La paix universelle doit être de nature à combler les souhaits les plus ardents de toutes les communautés et de toutes les religions. Les enseignements de Baha'u'llah sont tels que toutes les communautés du monde, qu'elles soient religieuses, politiques ou éthiques, anciennes ou modernes, trouvent en eux l'expression de leur désir le plus noble. Par exemple, les adeptes des diverses religions trouvent dans les enseignements de Baha'u'llah l'établissement de la religion universelle, une religion parfaitement conforme aux conditions présentes et qui, en réalité, assure la guérison immédiate de la maladie incurable, soulage de toute souffrance et apporte l'infaillible antidote à tout poison mortel. En effet, si nous voulons mettre en ordre et organiser le monde de l'humanité selon les imitations religieuses actuelles, et par là instaurer le bonheur parmi les hommes, la tâche demeure impossible et impraticable. Par exemple, les lois de la Torah et celles des autres religions telles qu'elles sont imitées actuellement. Toutefois, la base essentielle de toutes les religions divines, qui découle des vertus du monde de l'humanité et constitue le fondement du bien-être du monde des hommes, est présente dans les enseignements de Baha'u'llah, et cela dans sa présentation la plus parfaite. Il en est de même pour la liberté que les peuples réclament à corps et à cri. La liberté modérée, qui garantit le bien-être de l'humanité, qui maintient et préserve les rapports à l'échelle de l'univers, est contenue dans toute sa force et son ampleur dans les enseignements de Baha'u'llah. Quant aux partis politiques, ce qui constitue la plus grande politique régissant le monde de l'humanité, ou plutôt la politique divine, est contenu dans les enseignements de Baha'u'llah. De même, concernant le parti de l'égalité qui recherche la solution des problèmes économiques, jusqu'à présent, toutes les solutions proposées se sont révélées impraticables, à l'exception des propositions d'ordre économique contenues dans les enseignements de Baha'u'llah, qui sont praticables et n'infligent aucune détresse à la société. De même, à propos des autres partis, si vous réfléchissez profondément à ce problème, vous constaterez que les buts les plus nobles de ces partis sont contenus dans les enseignements de Baha'u'llah. Ces enseignements constituent le pouvoir qui embrasse toute chose parmi les hommes et peuvent être mis en application. Mais il existe certains enseignements des temps passés, tels que ceux de la Torah, qui ne peuvent être appliqués à notre époque. Il en est de même d'autres religions et doctrines professées par les diverses sectes et les différents partis. Sur le problème de la paix universelle, par exemple, Baha'u'llah déclare qu'il faut instituer le tribunal suprême. Bien que la Société des Nations ait été créée, elle est incapable d'instaurer la paix universelle. Mais le tribunal suprême décrit par Baha'u'llah accomplira cette tâche sacrée avec un pouvoir et une puissance extrêmes. Son plan est le suivant. Les assemblées nationales de chaque pays et de chaque nation, c'est-à-dire les parlements, doivent élire deux ou trois personnes considérées comme les hommes les plus éminents de chaque nation, bien informés des lois internationales et des relations intergouvernementales, et connaissant bien les besoins essentiels de l'humanité à notre époque. Le nombre de ces représentants doit être proportionnel à celui des habitants de chaque pays. L'élection de ces hommes, choisis par l'Assemblée nationale, c'est-à-dire le Parlement, doit être ratifiée à la fois par la Chambre haute, le Congrès et le cabinet, ainsi que par le président ou le souverain, afin que ces personnes puissent être les élus de toute la nation et de son gouvernement. C'est parmi eux que seront élus les membres du tribunal suprême, et toute l'humanité y aura ainsi sa part, car chacun de ces délégués est entièrement représentatif de son propre pays. Lorsque le tribunal suprême rend un jugement sur un problème international, soit à l'unanimité, soit à la majorité, le plaignant n'aura plus aucun prétexte pour se plaindre et le défendeur aucun motif d'objection. Dans le cas où l'un quelconque des gouvernements ou nations commettrait des négligences ou des manœuvres dilatoires dans l'exécution de la décision irrévocable du tribunal suprême, les autres nations s'élèveraient contre ce gouvernement ou ce pays, car tous les gouvernements et tous les pays du monde sont les défenseurs de ce tribunal suprême. Réfléchissez combien solide est ce fondement. Alors que par les soins d'une société des nations limitée et restreinte, le but ne sera pas atteint comme il le faudrait. Telle est la vérité sur la situation qui a été exposée. Chapitre 228. Ô serviteur au seuil de Baha'u'llah, j'ai bien reçu ta lettre en date du 15 juin 1920, ainsi qu'une lettre de quelques-uns des membres du Comité pour la paix, auxquels j'ai répondu. Il est évident que cette assemblée n'est pas à la hauteur de sa réputation et qu'elle est incapable de résoudre les problèmes de la manière qui s'impose. Il n'en reste pas moins que les affaires dont elle s'occupe sont de la plus haute importance. La réunion de La Haye devrait disposer d'un pouvoir et d'une influence telle que ses délibérations exercent un effet sur les gouvernements et les nations. Rappelez aux membres du comité que la conférence de La Haye, qui s'est tenue avant la guerre, avait comme président le tsar de Russie et que ses membres étaient des hommes particulièrement éminents, ce qui n'a pas permis malgré tout d'éviter une aussi terrible guerre. Qu'en sera-t-il aujourd'hui? Dans l'avenir, un autre conflit, plus cruel que le dernier, éclatera certainement. Ceci est, en vérité, hors de doute. Or, que peut faire le comité de La Haye? Les principes fondamentaux établis par Baha'u'llah ne cessent de se propager jour après jour. Transmets ma réponse à la lettre des membres du comité. Exprime-leur l'affection et la bonté les plus grandes, et laisse-les s'occuper de leurs propres affaires. De toute manière, ils devraient être satisfaits de vous, et sous réserve de leur approbation, vous pouvez imprimer et distribuer mon épître détaillée, qui a déjà été traduite en anglais. Fréquentez les espérantistes. Chaque fois que vous en découvrez un doué d'entendement, transmettez-lui les fragrances de la vie éternelle. Dans toutes les réunions, entretenez-vous des enseignements de Baha'u'llah, car ceci aura un effet dans les pays occidentaux. Si l'on vous interroge sur votre croyance en Baha'u'llah, vous devriez répondre que nous le considérons comme le premier éducateur du monde en cet âge, et expliquer en détail que ses enseignements sur la paix universelle et d'autres sujets ont été révélés par la plume de Baha'u'llah il y a 50 ans, qu'ils ont déjà été publiés en Perse et en Inde et diffusés à travers le monde. Au début, l'incrédulité était générale quant à la notion de paix universelle, considérée comme une impossibilité. Parlez ensuite de la grandeur de Baha'u'llah, des événements qui eurent lieu en Perse et en Turquie, de l'influence étonnante qu'il exerça, du contenu des épîtres qu'il adressa à tous les souverains de la terre et de l'accomplissement de ses prophéties. Parlez aussi de la propagation de la cause Baha'i. Nouez des relations aussi étroites que possible avec le comité de La Haye en faveur de la paix universelle et faites preuve de la plus extrême courtoisie à l'égard de ses membres. Il est évident que les espérantistes se montrent réceptifs et tu es expert dans leur langue. Mets-toi également en rapport avec les espérantistes d'Allemagne et d'autres pays. Les documents que tu distribues ne doivent traiter que les enseignements Baha'i. La diffusion d'autres documents n'est pas souhaitable actuellement. Mon espoir est que les confirmations divines ne cessent de te soutenir. Ne sois pas affligé de l'apathie et de la froideur qui règnent au sein de la réunion de La Haye. Place ta confiance en Dieu. Notre espoir est que parmi les peuples, la langue espéranto puisse avoir à l'avenir une puissante influence. Tu as désormais semé la graine. Celle-ci germera assurément. Son développement dépend de Dieu. Chapitre 229. Ô serviteur sincère du vrai Dieu, j'apprends que tu es dans l'affliction et la détresse à cause des événements mondiaux et des vicissitudes du destin. Pourquoi cette crainte et cette affliction? Les vrais amoureux de la beauté d'Abba et ceux qui ont bu à la coupe de l'Alliance ne redoutent aucune calamité. À l'heure de l'épreuve, ils ne se sentent pas abattus. Ils considèrent le feu de l'adversité comme leur jardin de délices, et le fond de la mer comme l'immensité du firmament. Toi qui es sous la protection de Dieu et à l'ombre de l'arbre de son alliance, pourquoi cette affliction? Pourquoi ces plaintes? Sois rassuré et garde ta confiance. Observe les commandements écrits de ton Seigneur avec joie et sérénité, avec sérieux et sincérité, et sois l'ami loyal de ton pays et de ton gouvernement. Sa grâce t'assistera à tout instant. Ses bénédictions te seront dispensées et le désir de ton cœur sera exaucé. Par l'ancienne beauté, que ma vie soit sacrifiée pour ses bien-aimés. Si les amis voyaient quelle glorieuse souveraineté le Seigneur leur a réservée dans son royaume, ils seraient remplis d'extase, se verraient couronnés de gloire immortelle et transportés de joie. Sous peu, l'éclat avec lequel la lumière de sa généreuse affection et de sa miséricorde a brillé sur ses bien-aimés sera manifeste, et l'on verra quel océan tumultueux a bouleversé leur cœur. Alors ils s'exclameront « Heureux que nous sommes, que le monde entier se réjouisse !» Chapitre 230. Ô personnage respecté, j'ai bien reçu ta deuxième lettre datée du 19 décembre 1918 qui m'a grandement réjoui, car elle montre ta fermeté et ta constance dans l'Alliance et le Testament, ainsi que ton désir ardent de lancer l'appel du royaume de Dieu. Aujourd'hui, l'appel du royaume est le magnétique pouvoir qui attire à lui le monde humain, car les facultés des hommes sont immenses. Les enseignements divins sont l'esprit de cet âge, ou plutôt le soleil de cet âge. Chaque âme doit veiller à ce que les voiles qui recouvrent les yeux des hommes puissent être déchirés, qu'ils puissent voir le soleil, et que les cœurs et les regards en soient illuminés. Or, grâce à l'assistance et à la générosité divine, tu possèdes ce pouvoir de direction et ce bienfait de miséricorde. Lève-toi donc, muni du pouvoir suprême, afin de dispenser l'esprit aux eaux qui tombent en poussière, de donner la vue aux aveugles, d'apporter baume et fraîcheur aux déprimés, entrain et grâce aux découragés. Chaque lampe finira par s'éteindre, sauf la lampe du royaume, qui croît en splendeur jour après jour. Tous les appels finiront par s'atténuer, sauf l'appel au royaume de Dieu qui ne cesse d'être lancé. Tous les chemins seront finalement détournés, sauf la voix du royaume qui se redresse jour après jour. La mélodie céleste ne doit assurément pas être comparée à celle de la terre, ni les lumières artificielles au soleil qui brillent dans le ciel. Aussi devons-nous nous efforcer de nous diriger vers tout ce qui est durable et permanent, afin d'être toujours plus illuminés, affermis et revivifiés. Je prie et implore le royaume divin que ton père, ta mère et ton frère puissent, guidés par la lumière de la direction céleste, entrer dans le royaume de Dieu. Chapitre 231. Ô toi, fleur sur l'arbre de vie, heureux es-tu d'avoir saint terrain dans le service de la cause, de t'être levé de toutes tes forces pour proclamer les enseignements divins, d'avoir convié des rassemblements et d'avoir lutté pour l'exaltation de la parole de Dieu. En ce monde mortel, toute affaire importante est appelée à s'achever, et toute vaste entreprise a une fin, car nul ne possède une existence permanente. Considère, par exemple, comme les grandes réalisations de l'ancien monde ont été totalement anéanties. Il n'en reste pas la moindre trace hormis la grande cause du royaume de Dieu, qui n'a pas eu de commencement et n'aura pas de fin. Elle est, tout au plus, seulement renouvelée. Au début de chaque rénovation, les hommes n'y portent guère d'attention. Mais une fois définitivement établie, elle ne cessera de progresser, et dans son exaltation quotidienne, elle atteindra les célestes sommets. Considère, par exemple, l'époque du Christ, qui fut celle du renouveau du royaume de Dieu. Les peuples du monde n'y ont guère attaché d'importance et n'ont point saisi sa signification. Le sépulcre du Christ est ainsi demeuré abandonné et ignoré pendant 3 siècles, jusqu'à ce que la servante de Dieu, Hélène, mère de Constantin, arriva et découvrit le lieu sacré. En t'exposant tout ceci, mon intention est de te montrer combien les habitants du monde sont insouciants et ignorants, et combien, au jour de l'établissement du royaume, ils demeurent indifférents et négligents. Sous peu, le pouvoir du royaume englobera le monde entier. Alors ils s'éveilleront, alors ils pleureront et se lamenteront sur le sort des opprimés et des martyrisés. Alors ils soupireront et gémiront. Telle est la nature des hommes. Chapitre 232. Quant au président Wilson, les 14 principes qu'il a énoncés se trouvent, pour la plupart, dans les enseignements de Baha'u'llah. J'espère donc qu'il sera confirmé et assisté. Aujourd'hui, nous sommes à l'aube de la paix universelle. Mon espoir est que son matin se lèvera complètement, transformant les ténèbres de la guerre, des conflits et des querelles entre les hommes en lumière d'union, d'harmonie et d'affection. Chapitre 233. Ô vous, amis fidèles, ô vous, serviteurs sincères de Baha'u'llah, à présent, au cœur de la nuit, alors que les yeux sont clos, alors que tous les hommes ont posé leur tête sur la couche du repos et dorment d'un sommeil profond, Abdu'l-Baha est éveillé dans l'enceinte du tombeau sacré et, dans l'ardeur de son invocation, profère cette prière. Ô toi, bonne et aimante Providence! L'Orient s'agite et l'Occident se soulève, semblable aux éternelles vagues de l'océan. Les 12 brises de sainteté se diffusent, et de l'invisible royaume parviennent, resplendissant, les rayons de l'orbe de vérité. On entend chanter les hymnes de l'unité divine, et les étendards de la puissance céleste flottent au vent. La voix angélique s'élève, et pareil au grondement du Léviathan, lance l'appel à l'abnégation et à l'effacement. Le cri triomphal de Ya Baha'u'llah résonne de toutes parts, et l'appel de Ya Aliyu'llah retentit à travers toute la terre. Pas un mouvement dans le monde si ce n'est celui de la gloire du seul ravisseur des cœurs, et nul tumulte si ce n'est le jaillissement de l'amour de celui qui est l'incomparable, le bien-aimé. Les bien-aimés du Seigneur, à la laine musquée, brûlent, tels de brillantes lampes, dans chaque région, et les amis du très miséricordieux, tels des fleurs, s'entr'ouvrent dans toutes les contrées. Ils ne s'accordent nulle trêve, ils ne respirent que dans le souvenir de toi, et n'aspirent à rien d'autre qu'à servir ta cause. Dans les prairies de la vérité, ils sont comme des rossignols aux chants subtils, et dans le jardin fleuri de la direction divine, ils sont comme des fleurs aux couleurs chatoyantes. Avec des fleurs mystiques, ils parent les allées du jardin de la réalité. Tels des cyprès s'agitant au vent, ils bordent les rivages de la volonté divine. À l'horizon de l'existence, ils brillent tels de radieuses étoiles. Dans le firmament du monde, ils scintillent, tels de resplendissantes orbes. Ils sont des manifestations de la grâce céleste et des sources lumineuses de l'assistance divine. Daigne, ô toi, Seigneur aimant, que tous puissent demeurer fermes et constants, éclatants de splendeur éternelle, afin qu'à chaque instant souffle de douces brises des charmilles de ta tendre bonté, que de l'océan de ta grâce s'élève une brume, que les ondées bienfaisantes de ton amour nous apportent la fraîcheur, et que le zéphyr répande son parfum du jardin de roses de l'unité divine. Accorde-nous, ô toi, bien-aimé du monde, un rayon de ta splendeur. Ô bien-aimé de l'humanité, répands sur nous la lumière de ta face. Ô Dieu omnipotent, sois notre protection et notre refuge. Ô Seigneur d'existence, manifeste ta puissance et ta domination. Ô toi, Seigneur aimant, les instigateurs de la sédition s'agitent et s'activent en plusieurs régions, et de nuit comme de jour infligent de cruels méfaits. Pareil à des loups, les tyrans sont tapis aux aguets, et le troupeau, innocent et lésé, est privé d'assistance et de secours. Les lévriers sont sur la piste des gazelles des champs de l'unité divine, et le faisan, dans les montagnes de la direction céleste, est poursuivi par les corbeaux de l'envie. Ô toi, divine Providence, garde-nous et protège-nous. Ô toi qui es notre bouclier, sauve-nous et défends-nous. Maintiens-nous sous ta protection et par ton assistance, délivre-nous de tous les maux. Tu es en vérité le protecteur véritable, l'invisible gardien, le céleste sauveur et le divin Seigneur aimant. Ô vous, bien-aimés du Seigneur, d'un côté se déroule l'étendard du seul vrai Dieu et s'élève la voix du royaume. La cause de Dieu se propage et les prodiges d'en haut se manifestent dans leur splendeur. L'Orient s'illumine et l'Occident s'embaume de parfums. Le Nord exhale l'ambre gris et le Sud le musc. De l'autre côté, les impies nagent dans la haine et la rancœur, fomentant sans cesse la sédition et les maux les plus cruels. Il ne se passe pas de jour que l'un d'entre eux ne lève l'étendard de la révolte et qu'il ne charge son destrier dans l'arène de la discorde. Pas une heure ne s'écoule sans que l'ignoble vipère découvre son crochet et répande son mortel venin. Les bien-aimés du Seigneur sont plongés dans la sincérité et la dévotion extrême, faisant peu de cas de cette rancœur et de cette malfaisance. Souples et insidieux sont ces serpents, ces chuchoteurs du mal, ingénieux dans leur fourberie. Soyez sur vos gardes et toujours vigilants. Les fidèles sont vifs d'esprit et d'intelligence. Les âmes empreintes de certitude sont fermes et constantes. Agissez avec toute la circonspection souhaitable. Craignez la sagacité du faible, car il voit à l'aide de la lumière divine. Prenez garde qu'une âme œuvrant dans le secret ne provoque la scission ou ne suscite des conflits. Dans la forteresse inexpugnable, soyez de courageux guerriers, et pour la puissante demeure, des hôtes intrépides. Nuit et jour, soyez sur vos gardes, afin qu'ainsi le tyran n'inflige aucun dommage. Étudiez la tablette du saint Nautonnier afin de connaître la vérité. Et sachez que la beauté bénie a totalement prédit les événements futurs. Que ceux qui perçoivent soient avertis. Il y a là, en vérité, un trésor de munificence pour les âmes sincères. Telle la poussière du seuil sacré, dans une humilité extrême, Abdu'l-Bahâ s'applique, nuit et jour, à proclamer ses signes. À la moindre occasion, il prie ardemment et le supplie en pleurant avec ferveur. « Ô toi, divine providence, nous sommes pitoyables, accorde-nous ton secours. Nous sommes des voyageurs sans gîte, donne-nous ton refuge. Nous sommes dispersés, réunis-nous. Nous sommes égarés, rassemble-nous en ton bercail. Nous sommes dépossédés, dispense-nous notre part. Nous sommes assoiffés, guide-nous vers la source de vie. Nous sommes fragiles, affermez-nous afin que nous puissions nous lever pour servir ta cause et nous offrir en vivant sacrifice sur le chemin de la direction divine. Les impies, toutefois, ouvertement ou en secret, de nuit comme de jour, déploient tous leurs efforts pour ébranler les fondements de la cause, déraciner l'arbre béni, empêcher ce serviteur de servir, fomenter une secrète sédition et anéantir Abdu'l-Bahâ. Extérieurement, ils semblent plaisibles comme des agneaux, et pourtant, dans leur nature intime, ils ne sont que des loups enragés. Bien que doux en parole, ils recèlent en leur cœur un poison mortel. Ô vous, bien-aimés, protégez la cause de Dieu. Ne vous laissez pas séduire par la douceur du langage. Non. Considérez plutôt la motivation de chaque être et méditez sur la pensée qu'il nourrit. Soyez d'abord attentifs et sur vos gardes. Évitez-le et cependant ne soyez pas agressif. Abstenez-vous de censurer et de calomnier et laissez-le entre les mains de Dieu. Que la gloire des gloires repose sur vous. Chapitre 234. Ô toi qui es ensorcelé par les douces brises du Seigneur, j'ai pris note du contenu de ta lettre si éloquente et j'ai appris que tu verses des larmes et que ton cœur se consume de chagrin à propos de l'emprisonnement d'Abdu'l-Bahâ. Ô toi, servante de Dieu, cette prison m'est plus douce et plus désirable qu'un jardin de fleurs. Pour moi, cet esclavage est meilleur que la liberté d'aller à ma guise, et je trouve ce lieu étroit plus spacieux que de vastes plaines s'ouvrant à l'infini. Ne sois pas affligé sur mon sort. Et si mon Seigneur décrétait que je sois béni de la douce coupe du martyr, cela signifierait pour moi recevoir ce pourquoi je languis le plus sur cette terre. soit sans crainte si cette branche est coupée de ce monde matériel et ses feuilles jetées au loin. Non, ses feuilles fleuriront, car cette branche croîtra après sa coupure du monde d'ici-bas. Elle atteindra les plus hautes cimes de gloire et donnera des fruits qui embaumeront le monde de leur fragrance. Chapitre 235. Ô Dieu, mon Dieu, illumine le front de tes fidèles amoureux et soutiens-les par les armées angéliques du triomphe de certitude. Affermis leurs pas sur ton droit chemin et par ton ancienne munificence, ouvre-leur les portails de tes bénédictions, car ils dispersent sur ton chemin ce que tu leur as accordé. Ils protègent ta foi, mettent leur confiance dans ton souvenir, offrent leur cœur par amour pour toi et sont détachés de ce qu'ils possèdent. Ils sont en adoration devant ta beauté et en quête des moyens de te plaire. Ô mon Seigneur, ordonne pour eux une part abondante et une récompense assurée. Tu es en vérité celui qui soutient, qui assiste, le généreux, le munificent, l'éternel dispensateur. Chapitre 236. Ô toi, mon Dieu, toi qui conduis celui qui cherche vers le chemin qui ne dévie point, toi qui délivres de la perdition l'âme égarée et aveuglée, toi qui dispenses aux âmes sincères les bienfaits et les faveurs les plus grands, qui protèges les effrayés dans ton imprenable refuge, qui réponds de ton horizon suprême à l'appel de ceux qui crient vers toi. Louange à toi, ô mon Seigneur, tu as guidé les distraits loin de la mort de l'incroyance et as mené au terme de leur voyage ceux qui se rapprochent de toi. Tu as réjoui ceux-là parmi tes serviteurs qui ont la certitude en exaucant leurs désirs les plus chers. Tu as, de ton royaume de beauté, ouvert à ceux qui languissent de toi les portes de la réunion et tu les as sauvés des feux de la privation et de la perdition. Ainsi, ils se sont hâtés vers toi, ont atteint ta présence et sont arrivés à ta porte accueillante où ils ont reçu de tes bienfaits une part abondante. Ô mon Seigneur, ils étaient assoiffés, tu as élevé vers leurs lèvres desséchées les eaux de la réunion. Ô toi, le tendre, le dispensateur, tu as calmé leur douleur avec le baume de ta munificence et de ta grâce. Tu as guéri leurs maux par le souverain remède de ta compassion. Ô Seigneur, affermis leurs pas sur ton droit chemin, agrandis pour eux le chat de l'aiguille, et fais que, vêtus d'habits royaux, ils marchent à jamais dans la gloire. Tu es en vérité le généreux, l'éternel dispensateur, le précieux, le très munificent. Il n'est pas d'autre Dieu que toi, le puissant, l'exalté, le victorieux. Ô mes bien-aimés en esprit, Dieu soit loué, vous avez écarté les voiles et reconnu le bien-aimé compatissant. Et vous vous êtes hâté de quitter cette demeure pour le royaume de l'infini. Vous avez dressé vos tentes dans le monde de Dieu. Et pour le glorifier, lui qui subsiste par lui-même, vous avez, de vos voix très douces, entonné les chants qui ont percé le cœur des hommes. Bravo, mille fois bravo, car vous avez contemplé la lumière manifestée. Et en vos êtres recréés, vous avez lancé ce cri « Béni soit le Seigneur, le meilleur de tous les créateurs ». Vous n'étiez que des bébés dans le sein maternel, puis vous avez été des nourrissons, et d'une précieuse poitrine, vous avez sucé le lait de la connaissance. Ensuite, vous avez atteint votre plein développement et avez gagné le salut. À présent, il est temps de servir. C'est le temps de la servitude à l'égard du Seigneur. Détachez-vous de toute pensée distrayante. Délivrez le message d'une langue éloquente. Parez vos assemblées de la louange du bien-aimé, jusqu'à ce que la munificence divine descende en torrent irrésistible et revête le monde de fraîche verdure et de fleurs. Le jaillissement de cette munificence, ce sont les conseils, les exhortations, les instructions et les injonctions même de Dieu Tout-Puissant. Ô vous, mes bien-aimés, le monde est plongé dans les épaisses ténèbres de la révolte ouverte et balayé par un tourbillon de haine. Ce sont les feux de la malveillance qui ont dressé leurs flammes jusqu'aux nuages du ciel. C'est un flot de sang qui se répand à travers les plaines et les collines, et personne à la surface de la terre ne peut trouver de repos. C'est pourquoi les amis de Dieu doivent manifester cette tendresse qui vient du ciel et dispenser l'amour en l'esprit à l'humanité tout entière. Avec chaque âme, ils doivent se comporter conformément aux conseils et aux exhortations de Dieu. À tous les hommes, ils doivent manifester bonté et confiance. Ils doivent être, envers tous, des amis sincères. Ils doivent se sacrifier pour leurs amis et souhaiter bonne chance à leurs ennemis. Ils doivent réconforter les méchants et traiter avec bonté d'âme leurs oppresseurs. Ils doivent être comme de l'eau rafraîchissante pour les assoiffés, et pour les malades, comme un remède rapide, un baume bienfaisant pour ceux qui souffrent, et une consolation pour tous les cœurs lourds. Ils doivent être une lumière directrice pour les égarés, un guide très sûr pour les âmes perdues. Ils doivent être des yeux pour les aveugles, des oreilles pour les sourds, la vie éternelle pour les morts, et pour les accablés, une joie qui ne finira point. Qu'ils se soumettent de plein gré à chaque souverain épris de justice, et qu'ils soient, pour chaque dirigeant magnanime, de loyaux citoyens. Qu'ils obéissent au gouvernement et ne se mêlent pas des affaires politiques, mais qu'ils se consacrent à l'amélioration de leur caractère et de leur comportement, et fixent leur regard sur la lumière du monde. Chapitre 237. Quiconque récite cette prière avec ferveur et humilité apportera joie et bonheur au cœur de ce serviteur. Ce sera comme une rencontre, face à face, avec lui. Il est le très glorieux, ô Dieu, mon Dieu. Humble et éploré, je lève vers toi mes mains suppliantes, et je voile mon visage dans la poussière de ton seuil sacré. Exalté au-delà de la connaissance des érudits, et de la louange de tous ceux qui te glorifient. Jette un regard de bonté sur ton serviteur qui se tient humblement devant ta porte, un regard de l'œil de ta miséricorde, et plonge-le dans l'océan de ta grâce éternelle. Seigneur, c'est un de tes pauvres et humbles serviteurs captifs. Il t'implore, prisonnier en ta main, te priant avec ferveur, confiant en toi, en pleurs devant ton visage, t'invoquant et te suppliant, ô Seigneur mon Dieu, accorde-moi ta grâce pour servir tes bien-aimés. Fortifie-moi dans ma servitude à ton égard. Illumine mon front de la lumière d'adoration en ta cour de sainteté et de prière en ton royaume de splendeur. Aide-moi à me montrer magnanime au seuil de ta porte céleste, à me détacher de toute chose en ton domaine sacré. Seigneur, donne-moi à boire au calice de l'abnégation. Revêts-moi de son habit, et dans son océan immerge-moi. Rends-moi telle la poussière sur le chemin de tes bien-aimés, et accorde-moi de pouvoir sacrifier mon âme pour la terre ennoblie par les pas de tes élus sur ta route, ô Seigneur de gloire, au plus haut des cieux. Par cette prière, ton serviteur t'appelle, à l'aube et dans l'obscurité de la nuit. Exauce le désir de son cœur, ô Seigneur. Illumine son cœur, réchauffe son sein, allume sa lumière, afin qu'il serve ta cause et tes serviteurs. Tu es le dispensateur, celui qui prend pitié, le très munificent, le très bon, le miséricordieux, le compatissant. Fin. Sélection des écrits d'Abdu'l-Bahá. Maison d'édition Bailly, 205 rue du Trône, 1050 Bruxelles, Belgique. ISBN 2872 03 11 03.